Chapitre 6. Montsoreau vient au devant du duc d'Anjou, qui le croyait mort, litière trop large et porte trop étroite. Aussitôt l'entretien rompu entre le duc d'Anjou et sa mère, le premier s'était empressé d'aller trouver Bussy pour connaître la cause de cet incroyable changement qui s'était fait en lui. Bussy rentrait chez lui, lisait pour la cinquième fois la lettre de Saint-Luc, dont chaque ligne lui offrait des sens de plus en plus agréables. De son côté, Catherine, retirée chez elle, faisait venir ses gens et commandait ses équipages pour un départ qu'elle croyait pouvoir fixer au lendemain ou au surlendemain au plus tard. Bussy reçut le prince avec un charmant sourire. « Comment, monseigneur, dit-il, votre Altesse daigne prendre la peine de passer chez moi ?»« Oui, mordieu, dit le duc, je viens te demander une explication. »« À moi ? Eh oui, à toi. J'écoute, monseigneur. »« Comment ? S'écria le duc. Tu me commandes de m'armer de pied en cap contre les suggestions de ma mère et de soutenir vaillamment le choc. Je le fais, et au plus fort de la lutte, quand tous les coups se sont émoussés sur moi, tu viens me dire « ôtez votre cuirasse, monseigneur, ôtez-la. » Je vous avais fait toutes ces recommandations, monseigneur, parce que j'ignorais dans quel but était venue Madame Catherine. Mais maintenant, je vois qu'elle est venue pour la plus grande gloire et pour la grande fortune de votre Altesse. Comment, fit le duc, pour ma plus grande gloire et pour ma plus grande fortune? Comment comprends-tu donc cela? Sans doute, reprit Bussy. Que veut votre Altesse? Voyons, triompher de ses ennemis, n'est-ce pas? Car je ne pense point, comme l'avancent certaines personnes, que vous songiez à devenir roi de France. Le duc regarda sournoisement Bussy. Quelques-uns vous le conseilleront peut-être, monseigneur, dit le jeune homme, mais ceux-là, croyez-le bien, ce sont vos plus cruels ennemis. Et puis, s'ils sont trop tenaces, si vous ne savez comment vous en débarrasser, envoyez-les-moi, je les convaincrai qu'ils se trompent. Le duc fit la grimace. D'ailleurs, continua Bussy, examinez-vous, monseigneur, sondez vos reins, comme dit la Bible. Avez-vous 100 000 hommes, 10 millions de livres, des alliances à l'étranger? Et puis enfin, voulez-vous aller contre votre seigneur? Monseigneur ne s'est pas gêné d'aller contre moi, dit le duc. Ah, si vous le prenez sur ce pied-là, vous avez raison. Déclarez-vous, faites-vous couronner et prenez le titre de roi de France. Je ne demande pas mieux que de vous voir grandir, puisque si vous grandissez, je grandirai avec vous. Qui te parle d'être le roi de France? Repartit aigrement le duc. Tu discutes là une question que jamais je n'ai proposée à personne de résoudre, pas même à moi. Alors tout est dit, monseigneur, et il n'y a plus de discussion entre nous, puisque nous sommes d'accord sur le point principal. Nous sommes d'accord, mais ce me semble au moins. Faites-vous donc donner une compagnie de garde, 500 000 livres, demandez, avant que la paix soit signée, un subside à l'Anjou pour faire la guerre. Une fois que vous le tiendrez, vous le garderez, cela n'engage à rien. De cette façon, nous aurons des hommes, de l'argent, de la puissance, et nous irons, Dieu sait où. Mais une fois à Paris, une fois qu'ils m'auront repris, une fois qu'ils me tiendront, ils se moqueront de moi, dit le duc. « Allons donc, monseigneur, vous n'y pensez pas. Eux, se moquer de vous. N'avez-vous pas entendu ce que vous offre la reine-mère? Elle m'a offert bien des choses. Et je comprends, cela vous inquiète, oui. Mais, entre autres choses, elle vous a offert une compagnie de garde. Cette compagnie fut-elle commandée par monsieur de Bussy? Sans doute, elle l'a offert cela. » Eh bien, acceptez, c'est moi qui vous le dis. Nommez Bussy votre capitaine, nommez Entraguet et Livaro vos lieutenants, nommez Ribérac enseigne, laissez-nous à nous quatre composer cette compagnie comme nous l'entendrons, et puis vous verrez, avec cette escorte à vos talons, si quelqu'un se moque de vous et ne vous salue pas quand vous passerez, même le roi. Ma foi, dit le duc, je crois que tu as raison, Bussy, j'y songerai. Songez-y, monseigneur. Oui, mais que lisais-tu là, si attentivement, quand je suis arrivé? Pardon, j'oubliais, une lettre. Une lettre? Qui vous intéresse encore plus que moi. Où diable avais-je donc la tête de ne pas vous la montrer tout de suite? C'est donc une grande nouvelle? Oui, mon Dieu, oui, et même une triste nouvelle. Monsieur de Montsoreau est mort. Plaît-il? S'écria le duc avec un mouvement si marqué de surprise que Bussy, qui avait les yeux fixés sur le prince, crut, au milieu de cette surprise, remarquer une joie extravagante. « Mort, monseigneur !»« Mort, monsieur de Montsoreau !»« Mon Dieu, oui, ne sommes-nous pas tous mortels ?»« Oui, mais on ne meurt pas comme cela tout à coup !»« C'est selon, si l'on vous tue... »« Il a donc été tué ?»« Il paraît que oui. »« Par qui ?» Par Saint-Luc, avec qui il s'est pris de querelle. « Ah, ce cher Saint-Luc !» s'écria le prince. « Tiens, dit Bussy, je ne le savais pas si fort de vos amis, ce cher Saint-Luc. »« Oh, il est des amis de mon frère, dit le duquet. Du moment où nous nous réconcilions, les amis de mon frère sont les miens. »« Ah, monseigneur, à la bonne heure, je suis charmé de vous voir dans de telles dispositions. »« Et tu es sûr ?» Ben, « Dame, aussi sûr qu'on peut l'être, voilà un billet de Saint-Luc qui m'annonce cette mort, et comme je suis aussi incrédule que vous et que je doutais, monseigneur, j'ai envoyé mon chirurgien Remis pour constater le fait et présenter mes compliments de condoléances au vieux baron. »« Mort, Montsoreau, mort !» répéta le duc d'Anjou, « mort, tout seul !» Le mot lui échappait comme le cher Saint-Luc lui avait échappé. Tous deux étaient d'une effroyable naïveté. « Il n'est pas mort tout seul, dit Bussy, puisque c'est Saint-Luc qui l'a tué. »« Je m'entends, dit le duc. »« Monseigneur l'avait-il par hasard donné à tuer à un autre ?» demanda Bussy. « Ma foi, non. Et toi ?»« Moi, monseigneur, je ne suis pas assez grand prince pour faire faire cette sorte de besogne par les autres, et je suis obligé de la faire moi-même. » « Ah, Montsoreau, Montsoreau !» fit le prince avec son affreux sourire. « Tiens, monseigneur, on dirait que vous lui en vouliez à ce pauvre comte. Non, c'est toi qui lui en voulais. Moi, c'était tout simple que je lui en voulusse, dit Bussy, en rougissant malgré lui. Ne m'a-t-il pas un jour fait subir, de la part de votre Altesse, une affreuse humiliation ?»« Tu t'en souviens encore ?»« Oh, mon Dieu, non, monseigneur, vous le voyez bien, mais vous, dont il était le serviteur, l'ami, l'âme damnée... » « Voyons, voyons, dit le prince, interrompant la conversation qui devenait embarrassante pour lui, fais sceller les chevaux, Bussy. »« Sceller les chevaux, et pourquoi faire ?»« Mais pour aller à Méridor, je veux faire mes compliments de condoléances à Madame Diane. D'ailleurs, cette visite était projetée depuis longtemps, et je ne sais comment elle ne s'est pas faite encore. » Mais je ne la retarderai pas davantage, corbleu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cœur au compliment aujourd'hui. » « Ma foi, se dit Bussy à lui-même, à présent que le Montsoreau est mort et que je n'ai plus peur qu'il vende sa femme au duc, peu m'importe qu'il la revoie. S'il l'attaque, je la défendrai bien tout seul. Allons, puisque l'occasion de la revoir m'est offerte, profitons de l'occasion. » Et il sortit pour donner l'ordre de sceller les chevaux. Un quart d'heure après, tandis que Catherine dormait, ou feignait de dormir, pour se remettre des fatigues du voyage, le prince, Bussy et 10 gentilshommes, montés sur de beaux chevaux, se dirigeaient vers Méridor avec cette joie qu'inspire toujours le beau temps, l'herbe fleurie et la jeunesse, aux hommes comme aux chevaux. À l'aspect de cette magnifique cavalcade, le portier du château vint au bord du fossé demander le nom des visiteurs. « Le duc d'Anjou !» cria le prince. Aussitôt, le portier saisit un corps et sonna une fanfare qui fit accourir tous les serviteurs sur le pont-levis. Bientôt, ce fut une course rapide dans les appartements, dans les corridors et sur les perrons. Les fenêtres des tourelles s'ouvrirent, on entendit un bruit de ferraille sur les dalles et le vieux baron parut au seuil, tenant à la main les clés de son château. C'est incroyable comme Montsoreau est peu regretté. Vois donc Bussy comme tous ces gens-là ont des figures naturelles. Une femme parut sur le perron. « Ah, la voilà la belle Diane !» s'écria le duc. « Vois-tu, Bussy, vois-tu » ?»« Certainement que je la vois, monseigneur, » dit le jeune homme. « Mais, ajouta-t-il tout bas, je ne vois pas Remis. » Diane sortait en effet de la maison, mais immédiatement derrière Diane sortait une civière, sur laquelle, couché, l'œil brillant, de fièvre ou de jalousie, se faisait porter Montsoreau. Plus semblable à un sultan des Indes sur son palanquin qu'à un mort sur sa couche funèbre. « Oh, qu'est-ce ceci ? » s'écria le duc, s'adressant à son compagnon, devenu plus blanc que le mouchoir à l'aide duquel il essayait d'abord de dissimuler son émotion. « Vive monseigneur le duc d'Anjou !» s'écria Montsoreau, en levant par un effort violent sa main en l'air. Tout beau, fit une voix derrière lui, vous allez rompre le caillot. C'était Remy, qui, fidèle jusqu'au bout à son rôle de médecin, faisait au blessé cette prudente recommandation. Les surprises ne durent pas longtemps à la cour, sur les visages du moins. Le duc d'Anjou fit un mouvement pour changer la stupéfaction en sourire. « Ah, mon cher comte, s'écria-t-il, quelle heureuse surprise! Croyez-vous qu'on nous avait dit que vous étiez mort ?»« Venez, venez, monseigneur, dit le blessé, venez que je baise la main de votre Altesse. Dieu merci, non seulement je ne suis pas mort, mais encore j'en réchapperai, je l'espère, pour vous servir avec plus d'ardeur et de fidélité que jamais. » Quant à Bussy, qui n'était ni prince ni mari, ces deux positions sociales où la dissimulation est de première nécessité, il sentait une sueur froide couler sur ses tempes. Il n'osait regarder Diane. Ce trésor, deux fois perdu pour lui, lui faisait mal à voir si près de son possesseur. « Et vous, monsieur de Bussy, dit Montsoreau, vous qui venez après son Altesse, recevez tous mes remerciements, car c'est presque à vous que je dois la vie. » « Comment, à moi ?» balbutia le jeune homme, croyant que le comte le raillait. « Sans doute, indirectement, c'est vrai, mais ma reconnaissance n'est pas moindre, car voici mon sauveur, » ajouta-t-il, en montrant Remy, qui levait des bras désespérés au ciel et qui eût voulu se cacher dans les entrailles de la terre. « C'est à lui que mes amis doivent de me posséder encore. » Et malgré les signes que lui faisait le pauvre docteur pour qu'il gardât le silence et que lui prenait pour des recommandations hygiéniques, il raconta emphatiquement les soins, l'adresse, l'empressement dont le Haudouin avait fait preuve envers lui. Le duc fronça le sourcil. Bussy regarda Remy avec une expression effrayante. Le pauvre garçon, caché derrière Montsoreau, se contenta de répliquer par un geste qui voulait dire « Hélas, ce n'est point ma faute !» « Au reste, continua le comte, j'ai appris que Remy vous a trouvé un jour mourant, comme il m'a trouvé moi-même. C'est un lien d'amitié entre nous. Ah, comptez sur la mienne, monsieur de Bussy. Quand Montsoreau aime, il aime bien. Et il est vrai que lorsqu'il hait, c'est comme lorsqu'il aime, c'est de tout son cœur. » Bussy crut remarquer que l'éclair qui avait un instant brillé en prononçant ces paroles dans l'œil fiévreux du comte était à l'adresse de monsieur le duc d'Anjou. Le duc ne vit rien. « Allons donc, dit-il, en descendant de cheval et en offrant la main à Diane. Veuillez, belle Diane, nous faire l'honneur de ce logis que nous comptions trouver en deuil et qui continue au contraire être un séjour de bénédiction et de joie. Quant à vous, Montsoreau, reposez-vous, le repos sied aux blessés. » « Oh, monseigneur, dit le comte, il ne sera pas dit que vous viendrez chez Montsoreau vivant et que, tant que Montsoreau vivra, un autre fera, à votre Altesse, les honneurs de son logis. Mes gens me porteront, et partout où vous irez, j'irai. » Pour le coup, on eût cru que le duc démêlait la véritable pensée du comte, car il quitta la main de Diane. Dès lors, Montsoreau respira. « Approchez d'elle, dit tout bas Remy à l'oreille de Bussy. » Bussy s'approcha de Diane et Montsoreau leur sourit. Bussy prit la main de Diane et Montsoreau lui sourit encore. « Voilà bien du changement, monsieur le comte, » dit Diane à demi-voix. « Hélas, murmura Bussy, que n'est-il plus grand encore ?» Il va sans dire que le baron déploya, à l'égard du prince et des gentilshommes qui l'accompagnaient, tout le faste de sa patriarcale hospitalité. Bussy ne quittait point Diane. Le sourire bienveillant de Montsoreau lui donnait une liberté dont il se fut bien gardé de ne point user. Les jaloux ont ce privilège qu'ayant rudement fait la guerre pour conserver leurs biens, ils ne sont point épargnés quand une fois les braconniers ont mis le pied sur leur terre. « Madame, dit Bussy à Diane, je suis en vérité le plus misérable des hommes. Sur la nouvelle de sa mort, j'ai conseillé au prince de retourner à Paris et de s'accommoder avec sa mère. Il a consenti, et voilà que vous restez en Anjou. »« Oh, Louis, répondit la jeune femme en serrant du bout de ses doigts effilés la main de Bussy, osez-vous dire que nous sommes malheureux, tant de beaux jours, tant de joies ineffables, dont le souvenir passe comme un frisson sur mon cœur, vous les oubliez donc, vous ?» « Je n'oublie rien, madame. Au contraire, je me souviens trop, et voilà pourquoi, perdant ce bonheur, je me trouve si fort à plaindre. Comprenez-vous ce que je vais souffrir, madame, s'il faut que je retourne à Paris, à 100 lieues de vous ? Mon cœur se brise, Diane, et je me sens lâche. » Diane regarda Bussy. Tant de douleur éclatait dans ses yeux qu'elle baissa la tête et qu'elle se prit à réfléchir. Le jeune homme attendit un instant, le regard suppliant et les mains jointes. « Eh bien, dit tout à coup Diane, vous irez à Paris, Louis, et moi aussi. »« Comment ? S'écria le jeune homme, vous quitterez, monsieur de Montsoreau ?»«
Je le quitterai, répondit Diane, que lui ne me quitterait pas. Non, croyez-moi, Louis, mieux vaut qu'il vienne avec nous. »
Et blessé, malade comme il est, impossible.
Il viendra, vous dis-je.
Et aussitôt, quittant le bras de Bussy, elle se rapprocha du prince, lequel répondait de fort mauvaise humeur à Montsoreau, dont Ribérac, Entraguet et Livaro entouraient la litière. À l'aspect de Diane, le front du comte se rasséréna, mais cet instant de calme ne fut pas de longue durée. Il passa, comme passe un rayon de soleil entre deux orages. Diane s'approcha du duc et le comte fronça le sourcil. « Monseigneur, dit-elle avec un charmant sourire, on dit que votre Altesse est passionnée pour les fleurs. Venez, je montrerai à votre Altesse les plus belles fleurs de tout l'Anjou. »
François lui offrit galamment la main.
« Où conduisez-vous donc, monseigneur, madame ?» demanda Montsoreau, inquiet.
« Dans la serre, monsieur. »«
Ah, fit Montsoreau, eh bien soit, portez-moi dans la serre. »
« Ma foi, se dit Remy, je crois bien maintenant que j'ai bien fait de ne pas le tuer, et Dieu merci, il se tuera bien tout seul. »
Diane sourit à Bussy d'une façon qui promettait merveille.
« Que monsieur de Montsoreau, lui dit-elle tout bas, ne se doute pas que vous quittez l'Anjou, et je me charge du reste. »«
Bien, fit Bussy. » Et il s'approcha du prince, tandis que la litière de Montsoreau tournait derrière un massif.
« Monseigneur, dit-il, pas d'indiscrétion surtout, que le Montsoreau ne sache pas que nous sommes sur le point de nous accommoder. »«
Pourquoi cela ?
Parce qu'il pourrait prévenir la reine-mère de nos intentions pour s'en faire une amie, et que, sachant la résolution prise, Madame Catherine pourrait bien être moins disposée à nous faire des largesses. »«
Ah, tu as raison, dit le duc, tu t'en défies donc ?»«
De Montsoreau, parbleu. »
Ah, « eh bien, moi aussi, ah, je crois en vérité qu'il a fait exprès le mort.
Ah, »« Non, par ma foi, il a bel et bien reçu un coup d'épée à travers la poitrine.
Cet imbécile de Remy l'a tiré d'affaire, l'a cru lui-même mort un instant. Il faut en vérité qu'il ait l'âme chevillée dans le corps. »
On arriva devant la serre. Diane souriait au duc d'une façon plus charmante que jamais. Le prince passa le premier, puis Diane. Montsoreau voulut venir après, mais... quand sa litière se présenta pour passer, on s'aperçut qu'il était impossible de la faire entrer.
La porte de style ogival était longue et haute, mais large seulement comme les plus grosses caisses, et la litière de M. de Montsoreau avait 6 pieds de largeur. À la vue de cette porte trop étroite et de cette litière trop large, le Montsoreau poussa un rugissement. Diane entra dans la serre sans faire attention aux gestes désespérés de son mari.
Bussy, pour qui le sourire de la jeune femme, dans le cœur de laquelle il avait l'habitude de lire par les yeux, devenait parfaitement clair, demeura près de Montsoreau en lui disant avec une parfaite tranquillité
« Vous vous entêtez inutilement, monsieur le comte, cette porte est trop étroite et jamais vous ne passerez par là.
« Monseigneur, monseigneur !» criait Montsoreau, « n'allez pas dans cette serre, il y a de mortelles exhalaisons, des fleurs étrangères qui répandent les parfums les plus vénéneux, monseigneur !»
Mais François n'écoutait pas. Malgré sa prudence accoutumée, heureux de sentir dans ses mains la main de Diane, il s'enfonçait dans les verdoyants des tours.
Bussy encourageait Montsoreau à patienter avec la douleur. Mais malgré les exhortations de Bussy, ce qui devait arriver arriva. Montsoreau ne put supporter non pas la douleur physique, sous ce rapport il semblait de faire, mais la douleur morale. Il s'évanouit.
Remy reprenait tous ses droits. Il ordonna que le blessé fût reconduit dans sa chambre.
« Maintenant, demanda Remy au jeune homme, que dois-je faire ?»«
Par Dieu, dit Bussy, achève ce que tu as si bien commencé. Reste près de lui et guéris-le. »
Puis il annonça à Diane l'accident arrivé à son mari. Diane quitta aussitôt le duc d'Anjou et s'achemina vers le château.
« Avons-nous réussi ?» lui demanda Bussy lorsqu'elle passa à ses côtés.
« Je le crois, dit-elle. En tout cas, ne partez point sans avoir vu Gertrude. »
Le duc n'aimait les fleurs que parce qu'il les visitait avec Diane. Aussitôt que Diane fut éloignée, les recommandations du comte lui revinrent à l'esprit et il sortit du bâtiment. Ribérac, Rivaro et Entraguet le suivirent. Pendant ce temps, Diane avait rejoint son mari, à qui Remy faisait respirer des sels. Le comte ne tarda pas à rouvrir les yeux.
Son premier mouvement fut de se soulever avec violence, mais Remy avait prévu ce premier mouvement et le comte était attaché à son matelas. Il poussa un second rugissement, mais en regardant autour de lui, il aperçut Diane debout à son chevet. « Ah, c'est vous, madame, dit-il. Je suis bien aise de vous voir pour vous dire que ce soir, nous partons pour Paris. » Remy jeta des hauts cris, mais Montsoreau ne fit pas plus attention à Remy que s'il n'était pas là. « J'y pensez-vous, monsieur, dit Diane, avec son calme habituel, et votre blessure. » « Madame, dit le comte, il n'y a pas de blessure qui tienne. J'aime mieux mourir que souffrir, et dussé-je mourir par les chemins, ce soir nous partirons. »« Eh bien, monsieur, dit Diane, comme il vous plaira. Il me plaît ainsi, faites donc vos préparatifs, je vous prie. »« Mes préparatifs seront vite faits, monsieur, mais puis-je savoir quelle cause a amené cette subite détermination ?» Je vous le dirai, madame, quand vous n'aurez plus de fleurs à montrer au prince, ou quand j'aurai fait construire des portes assez larges pour que ma litière entre partout. » Diane s'inclina. Mais, madame, dit Remy, monsieur le comte le veut, répondit Diane, mon devoir est d'obéir. Et Remy crut reconnaître à ce signe de la jeune femme qu'il devait cesser ses observations. Il se tut tout en grommelant, « Ils me le tueront, et puis on dira que c'est la faute de la médecine. » Pendant ce temps, le duc d'Anjou s'apprêtait à quitter Méridor. Il témoigna la plus grande reconnaissance au baron de l'accueil qu'il lui avait fait et remonta à cheval. Gertrude apparut en ce moment. Elle venait annoncer tout haut au duc que sa maîtresse, retenue près du comte, ne pouvait avoir l'honneur de lui présenter ses hommages, et tout bas à Bussy que Diane partait le soir. On partit. Le duc avait les volontés dégénérescence, ou plutôt les perfectionnements de ses caprices. Diane cruelle le blessait et le repoussait de l'Anjou, Diane souriante lui fut une amorce. Comme il ignorait la résolution prise par le grand veneur tout le long du chemin, il ne cessa de méditer sur le danger qu'il y aurait à obéir trop facilement au désir de la reine-mère. Bussy avait prévu cela, et il comptait bien sur le désir qu'éprouverait le duc de rester. « Vois-tu, Bussy, lui dit le duc, j'ai réfléchi. »« Bon, monseigneur, et à quoi ?» demanda le jeune homme. « Qu'il n'est pas bon de me rendre ainsi tout de suite au raisonnement de ma mère. »« Vous avez raison, elle se croit déjà bien assez profonde politique comme cela. »« Tandis que vois-tu, en lui demandant 8 jours, ou plutôt en traînant 8 jours, en donnant quelques fêtes auxquelles nous appellerons la noblesse, nous montrerons à notre mère combien nous sommes forts. » Puissamment raisonné, monseigneur. Cependant, il me semble... Je resterai ici 8 jours, dit le duc, et grâce à ce délai, j'arracherai de nouvelles conditions à ma mère. C'est moi qui te le dis. Bussy parut réfléchir profondément. En effet, monseigneur, dit-il, arracher, mais tâchez qu'au lieu de profiter par ces retards, vos affaires n'en souffrent pas. Le roi, par exemple... Eh bien, le roi, ne connaissant pas vos intentions, peut s'irriter. Il est très irascible, le roi. Tu as raison, il faudrait que je puisse envoyer quelqu'un pour saluer mon frère de ma part et pour lui annoncer mon retour. Cela me donnera les 8 jours dont j'ai besoin. Oui, mais ce quelqu'un court grand risque, dit Bussy. Le duc d'Anjou sortit de son mauvais sourire. Si je changeais de résolution, n'est-ce pas, dit-il. « Malgré la promesse faite à votre frère, vous en changerez si l'intérêt vous y pousse, n'est-ce pas ?»« Dame, fit le prince. Très bien, et alors on enverra votre ambassadeur à la Bastille. »« Nous ne le préviendrons pas de ce qu'il porte et nous lui donnerons une lettre. »« Au contraire, dit Bussy, ne lui donnez pas de lettre et prévenez-le. »« Mais alors personne ne voudra se charger de la mission. »« Allons donc, tu connais un homme qui s'en chargera, toi ?» « Oui, j'en connais un. »« Lequel ?»« Moi, monseigneur. »« Toi ?»« Oui, moi, j'aime les négociations difficiles. »« Bussy, mon cher Bussy !» s'écria le duc. « Si tu fais cela, tu peux compter sur mon éternelle reconnaissance. » Bussy sourit, il connaissait la mesure de cette reconnaissance dont lui parlait son Altesse. Le duc crut qu'il hésitait. « Mais je te donnerai 10 000 écus pour ton voyage, » ajouta-t-il. « Allons donc, monseigneur, dit Bussy, soyez plus généreux. Est-ce que l'on paie ces choses-là ?»« Si, tu pars. »« Je pars. »« Pour Paris. »« Pour Paris. »« Et quand cela ? » ?»« Dame, quand vous voudrez. Le plus tôt serait le mieux.
Oui, eh bien.
Eh bien, ce soir, si vous voulez, monseigneur.
Ah, brave Bussy, cher Bussy, tu consens donc réellement?
Si je consens, dit Bussy, mais pour le service de votre Altesse, vous savez bien, monseigneur, que je passerai dans le feu.
Ah, c'est donc convenu, je pars ce soir. Vous vivez joyeusement ici et attrapez-moi de la reine mère quelque bonne abbaye.
Ah, j'y songe déjà, mon ami.
Alors, adieu, monseigneur.
Adieu, Bussy. Ah, n'oublie pas une chose.
Laquelle? Prends congé de ma mère.
J'aurai cet honneur.
En effet, Bussy, plus leste, plus joyeux, plus léger qu'un écolier pour lequel la cloche vient de sonner l'heure de la récréation, fit sa visite à Catherine et s'apprêta pour partir aussitôt que le signal du départ lui viendrait de Méridor. Le signal se fit attendre jusqu'au lendemain matin. Montsoreau s'était senti si faible après cette émotion éprouvée qu'il avait jugé lui-même qu'il avait besoin de cette nuit de repos. Mais vers 7 heures, le même palefrenier qui avait apporté la lettre de Saint-Luc vint annoncer à Bussy que, malgré les larmes du vieux baron et les oppositions de Remy, le comte venait de partir pour Paris dans une litière qu'escortaient à cheval Diane, Remy et Gertrude. Cette litière était portée par 8 hommes qui, de lieu en lieu, devaient se relayer. Bussy n'attendait que cette nouvelle, il sauta sur un cheval sellé depuis la veille et prit le même chemin.